Bonjour à tout le monde, et particulièrement à ceux qui sont là pour la première fois. Hein, on vous salue bien. Bon, et notre Bible, je crois que ça ne marche pas. 1, 2, voilà. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, un bon week-end pour se reposer. Et on va en parler un petit peu de cette Pentecôte, pas forcément de ce qui s'est passé, mais du discours de Pierre à ce moment-là. Et on va aller dans les Actes chapitre 2, et on va lire les versets 22 à 40. Actes chapitre 2, versets 22 à 40. Homme israélite, c'est Pierre qui est en train de parler, hein. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Ainsi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il l'a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et le dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, les conjurer et l'exhorter, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Souvent quand on pense à la Pentecôte, on sait que c'est la naissance de l'Église. On sait que c'est le moment où il y a le Saint-Esprit qui a été donné. Mais il y a ce petit passage-là de Pierre qui est aussi important parce que, comme j'ai marqué, Pierre va démontrer là-dedans la messianité de Jésus-Christ. Alors pour nous, peut-être on va se dire que ce n'est pas important, mais pour le Juif, c'était extrêmement important d'avoir cette démonstration parce qu'eux attendaient le Messie. Le problème, c'est que pour le Juif, à l'époque, hein, on parle, ils attendaient un Messie qui allait faire la guerre, allait détruire les Romains et délivrer en fait tout simplement le pays d'Israël. Seulement, la Bible avait prévu plein d'autres choses. Ce Messie reviendra un jour, mais d'une autre manière, et là, il fera la guerre, effectivement. Mais Jésus est venu d'abord pour donner sa vie. Et donc, Pierre, devant cette foule de Juifs qui était étonnée, à mon avis, de ce qui se passait, hein, parce qu'il y avait le parler en langue, des choses bizarres à ce moment-là, va devoir, tout simplement, répondre, quelque part, de leur foi, hein, et va démontrer que Jésus était bel et bien le Messie qui était attendu par ce peuple, mais qui, évidemment, ne l'a pas reçu. Et c'est ce qu'il va faire, il va argumenter, il va prouver tout simplement par plusieurs faits, et on va les voir ce matin. Et c'est bien peut-être parce que ça nous apprend à nous aussi d'argumenter peut-être vis-à-vis des gens qui disent « Ah, ben Jésus, il n'existe pas !» Qu'est-ce qu'on pourrait dire si quelqu'un dit « Jésus n'existe pas ?» Je ne veux pas que vous répondiez, vous réfléchissez, on fait un interro à la fin. Non. Mais il va démontrer la messianité de Jésus, et surtout, comme il a dit à un moment, il va montrer qu'il était le Messie, mais que ces Juifs l'ont rejeté et l'ont crucifié. Et ça, ça devait avoir un impact terrible pour le Juif à ce moment-là. Ils n'ont pas tous compris, en tout cas. Mais pour nous, c'est d'être étonné par, justement, la vie de Jésus. Je ne sais pas si ça nous étonne encore, vieux chrétiens que nous sommes, briscards depuis des années, que Jésus, ça m'étonne encore. Ben, on va voir un petit peu que oui. La première démonstration qu'il va faire, c'est en parlant de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Hein. Jésus a vécu pendant 33 ans, il est venu comme un bébé, mais il a été incarné, et puis il a grandi. Puis au fur et à mesure de son ministère, il a fait des miracles, il a fait des prodiges, il a fait des signes qui prouvent justement qu'il était le Messie. Et d'une certaine manière, Dieu a rendu témoignage par Jésus que, ben, comme Jésus fait des choses miraculeuses, Dieu, le Père, existe justement. Et que ça ne venait pas de Jésus seulement. Et tous ces miracles, justement, devaient attirer normalement ces Juifs, ces gens qui étaient là autour, pour bien comprendre que ben, Jésus, ce n'était pas n'importe qui, et surtout qu'il y a quelqu'un qui lui donnait une puissance qui était particulière et que personne n'avait eu jusqu'à présent. Ça devait attirer normalement les hommes vers la foi et tout simplement vers le fait de connaître Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui cherchent les miracles, mais ce n'est pas forcément pour attirer vers Dieu, c'est surtout pour attirer de l'argent et remplir les caisses. Ce n'était pas l'objectif de Jésus. Mais on voit que c'est Dieu qui travaille en Jésus, parce que vous avez déjà fait des miracles, vous ? Vous avez déjà chassé des démons, guéri des gens ? Personne ne peut faire ça, sauf Jésus. Et on voit que c'est Dieu qui travaille en Jésus et qu'il a bel et bien envoyé, qu'il était bien le Fils de Dieu, et surtout qu'il était divin lui-même. Parce que seul Dieu peut faire ce genre de choses. Et le texte dit, tout cela a été opéré par lui. C'est-à-dire, tout ce que Jésus faisait a été fait par Dieu, justement. Et ça prouve justement que Dieu a approuvé le ministère de Jésus-Christ. Et en même temps, il dit d'une certaine manière, c'est le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il avait décidé qu'à un moment, il enverrait le Fils de Dieu sur la terre, incarné, qu'il allait vivre un certain temps, démontrer qu'il était divin, démontrer que Dieu existe, et pour finir tout simplement sur une croix, mais là pour nous apporter le salut, chose que les Juifs à ce moment-là n'avaient pas compris. Ça démontre que Jésus n'était pas un imposteur non plus, puisque s'il est agréé par Dieu, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais on voit aussi que c'était le Messie qui était envoyé par Dieu, tout simplement. Verset 22, il dit « Vous-même, vous pouvez l'attester. » Il parle là aux Juifs, il dit « Vous-même, là, vous pourriez dire oui, c'est vrai que c'est bien le Messie qui était envoyé, mais parce qu'il y avait des pharisiens, il y avait des religions à ce moment-là, un peu comme aujourd'hui. » On bouche les oreilles, on ne veut pas entendre la vérité parce qu'on est bien dans notre religion. Voilà. Mais à ce moment-là, ces pharisiens, c'était des religieux et ne voulaient pas accepter que Jésus était effectivement le Messie. Parce que ça les gênait. Tout leur business, là, c'était fini. C'est ça le problème. Et reconnaître Jésus dans sa vie, ce n'est pas évident non plus toujours. Mais tous ces miracles ont prouvé qu'il était Dieu. Et moi, je me dis aujourd'hui que ce Dieu, il existe encore. Et tout ce que Jésus a pu faire, le miraculeux, on va le dire, le Seigneur a la même capacité aujourd'hui dans ma vie. Des fois, on est dans des situations difficiles. Dieu ne fait pas forcément un miracle, mais quelqu'un qui se convertit, c'est déjà un miracle pour moi. Quelqu'un qui accepte Jésus-Christ dans sa vie, c'est un miracle. Mais j'ai vu dans ma vie aussi beaucoup d'autres choses formidables que Dieu a fait pour moi. Il m'a aidé dans des situations difficiles, et je pense que chacun pourrait aussi en parler. J'ai un puissant conseiller, quelqu'un qui peut m'aider dans ma vie. C'est génial. Il ne faut pas aller sur Google, vaut mieux prier des fois. Là, vous aurez plus de conseils et des bons conseils. Donc, cette vie de Jésus démontre qu'il était le Messie à cause de ce qu'il faisait. Puis, il y a cette mort, j'ajoute, planifiée de Jésus. Parce que quand Jésus a quitté le ciel pour s'incarner, il savait qu'il allait mourir. Certainement, dès qu'il était jeune, il savait déjà qu'il allait mourir sur cette croix. Vous imaginez, vous vous naissez, et puis pendant tout le reste de vos vies, enfin jusqu'à l'âge de 33 ans, vous savez qu'à un moment, vous allez vous faire crucifier. C'est une chose de mourir, mais crucifier avec tout le péché du monde sur vous. Quand nous péchons, ça nous fait déjà un peu mal à la conscience, mais si vous multipliez ça par 4 milliards ou 5 milliards d'hommes qu'il y a aujourd'hui, ou je ne sais pas quoi, vous imaginez le poids que Jésus a supporté. La croix, c'était rien pour lui, c'est le poids du péché qui devait être terrible. Mais il savait, et tout ça a été planifié par Dieu par avance, puisque dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs passages, et le plus connu, c'est Ésaïe 53, qui dit justement que le Messie va être châtié, le Messie va être crucifié. Alors, peut-être que les gens de l'époque n'avaient pas compris les prophètes, ou ne voulaient pas comprendre, parce que des fois on comprend, mais le cœur il est tortueux, et puis il fait sa petite mixture. Ils savaient normalement, si on lisait l'Ancien Testament, ils devaient savoir que le Messie allait souffrir. C'est clair, on voit ça dans Daniel et ailleurs. Mais ils ne voulaient pas l'entendre. Et il est dit, il a été livré selon le dessein arrêté de Dieu. La crucifixion, le sacrifice, tout ce que Jésus allait faire, allait permettre le salut. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu aurait pu dire, écoutez les gars, vous n'avez pas voulu m'écouter, maintenant c'est réglé, vous allez tous en enfer. Et puis Dieu serait allé rentrer tranquillement chez lui, c'est une image, on est bien d'accord. Puis il va dire, moi les hommes, ils me fatiguent. Il n'a pas fait ça. Il avait déjà prévu qu'un jour, Jésus viendrait sur la terre, mourrait pour moi, pour prendre ma place à cause de mon péché. C'est quand même formidable quand on y réfléchit, l'amour de Dieu. Si moi je vous embête tous les jours, vous seriez prêts à mourir pour moi ? Non, faites pas semblant, hein, vous le feriez jamais. Et je ne ferai pas pour vous non plus, parce que je suis un homme, je le sais. Mais Dieu a accepté d'offrir son fils pour cela. Mais il avait tout planifié. Et il a été livré selon la préscience de Dieu. Dieu savait qu'à un moment, ils allaient arrêter Jésus. Il savait que les hommes tueraient son fils. Il savait aussi que Jésus obéirait jusqu'au bout. Il savait toutes ces choses-là. Ça n'empêche que l'homme reste responsable pour autant. Ce n'est pas parce que Dieu sait qu'on est des espèces de petits robots qui faisons ce qu'il nous demande. Et il parle de cette responsabilité. Pierre, il dit, vous l'avez crucifié. Et en parlant aux Juifs. Vous, ça concerne ces Juifs à ce moment-là. Et il faut entendre comment ça devait résonner dans un Juif, parce que le Juif, c'était, enfin, le peuple juif était le peuple élu de Dieu, d'accord ? Et ce peuple élu de Dieu entend dire qu'on a crucifié celui qu'on attend depuis longtemps, le Messie. Ça devait faire quelque chose, quand même, dans le cœur de ces Juifs à ce moment-là. Pas trop, parce qu'il n'y en a pas tellement qui vont se convertir. Enfin, il y en a 3000 environ. Mais le reste du peuple va continuer sa vie, tout simplement. Mais je pense aussi que cette responsabilité, c'est pas que les Juifs, parce qu'on aimerait dire « Ah ben, c'est à cause des Juifs hein. ». Non. Je pense qu'il continue, il dit « Il a été tué par des impies ». Et là, il s'adresse, le mot « anémos » en grec, c'est les hommes sans loi, les malfaiteurs. On pourrait parler là tout simplement des Romains, puisque c'est les Romains qui ont exécuté la sentence. Et donc on voit les Juifs, on voit les Romains. Finalement, c'est chacun d'entre nous, à cause de notre péché, que Jésus a été crucifié. Oh, je n'ai peut-être pas tué, je n'ai peut-être pas volé, mais j'ai eu des mauvaises pensées, je me suis mis en colère. Et à cause de ça, Jésus est mort sur la croix pour moi, pour me pardonner tout simplement mes péchés. Donc tous les hommes sont responsables parce que tous les hommes sont pécheurs, la Bible le dit. Vous avez tous péché, et oui, et même quand vous naissez et que vous n'avez rien fait encore, vous êtes déjà pécheur à cause d'Adam et Ève. Donc finalement, on ne peut pas dire que je suis sans péché, mais on avait besoin d'un sauveur justement. Et Jésus-Christ est venu pour cela. Je pense que réfléchir à la Pentecôte et réfléchir surtout à ce discours de Pierre qui démontre la messianité de Christ, ben ça devrait nous pousser à remercier justement Jésus qui a accepté de faire tout ça. Si vous étiez mort pour quelqu'un, comme je dis souvent, et que la personne s'en va et ne vous remercie pas, vous seriez comment ? Je suis mort pour toi, hein, quand même, pour me dire merci. C'est pas la moindre des choses, quand même, la politesse, on va dire. Mais vivre reconnaissant de ce que Jésus a fait pour moi, ça lui a coûté la vie. Et ça doit dynamiser ma vie chrétienne et surtout vivre reconnaissant de tout cela. Voilà le premier point que démontre, on pourrait dire, l'apôtre Pierre. Hein. La vie, la mort de Jésus attestent qu'il est réellement le Messie. C'est-à-dire, le mot Messie, ça veut dire « oint », et Christ veut dire aussi « oint ». Donc le Messie égale le Christ, quelque part. C'est pourquoi, quand on dit Jésus-Christ, on dit Jésus, celui qui est loin, ou le Messie, on pourrait dire, ou le Christ, tout simplement. Sa vie a démontré qu'il venait de Dieu et qu'il était le Messie. Puis Pierre continue, un deuxième point, il va démontrer par la résurrection de Jésus. Quelqu'un est déjà ressuscité ici ? On aimerait bien, mais on n'est déjà pas mort, donc c'est pas mal. On attendra ça plus tard. Mais personne n'est ressuscité dans ce monde, pas comme Jésus en tout cas. Et Dieu a ressuscité justement Jésus, il le dit au verset 29. Dieu va le délivrer des liens de la mort. On peut se poser la question, mais pourquoi Jésus ? Pourquoi il ne l'aurait pas fait pour d'autres ? Mais tout simplement parce que c'est Jésus, et surtout parce que lui était sans péché. Toutes les personnes qui sont sur cette terre ont péché une fois, au moins une fois. Et à cause de cela, évidemment, ça nous condamne. Mais Jésus, lui, n'a jamais péché. Dans Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15, il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Souvent, on aime bien mettre tout sur Dieu. Ah, c'est guerre, c'est à cause de Dieu, le monde qui s'entre, c'est à cause de Dieu. Mais Dieu regarde, et moi j'ai jamais demandé de faire la guerre, hein. Jamais demandé ça, c'est vous, c'est votre péché. Je continue, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché, et le péché étant consommé, produit tout simplement la mort. C'est mon péché qui produit la mort. Et comme Jésus n'a jamais péché, ben, cette mort ne pouvait pas agir en lui comme elle agit en nous aujourd'hui. Et donc il dit parce que cette mort ne pouvait pas retenir Jésus. Tout ça à cause de la puissance de Dieu qui domine sur la mort. Et là en même temps, parce qu'il va le ressusciter, démontre que Jésus était bien envoyé par Dieu et que c'était bien son fils et qu'il va ressusciter. Et aussi parce que cela a été promis et prophétisé puisque Jésus lui-même va dire dans Jean chapitre 2, avant d'être crucifié, les Juifs prenant la parole lui dire « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple en 3 jours. » Il parlait de lui, il ne parlait pas des pierres. « Et toi, détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, mais pensez au truc en pierre, hein. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Avant même d'être mort, Jésus-Christ avait prévu qu'il allait ressusciter. Alors, je ne sais pas si c'est plus simple d'aller mourir sur une croix en sachant que je vais ressusciter après. Je ne sais pas, ça vous branche ? Non, c'était quand même difficile. Non, mais parce qu'on pourrait dire, c'est facile. Si tu sais que tu vas ressusciter juste après, bon, allez, ça vaut le coup d'aller mourir. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, la mort n'a pas pu retenir Jésus. La Bible nous dit que justement, l'objectif, c'était d'anéantir cette mort, mais aussi la puissance qui accompagne cette mort, c'est-à-dire tout simplement le diable. Le diable, il aime quand on meurt et surtout quand on va en enfer avec lui. Et Jésus a anéanti cette puissance de la mort. Et plus tard, pour ceux qui sont nés de nouveau, qui croient en Jésus-Christ, qui sont repentis, eh bien, connaîtront aussi la résurrection avec Christ. Et la mort n'a plus d'effet. Mais là, Pierre prouve que Jésus n'a pas pu rester dans le séjour des morts. Et puis, il prend le témoignage de David, et on va lire dans le psaume 16, hein, en gardant la page de Actes, parce qu'il va reprendre en fait ce psaume, psaume chapitre 16, versets 8 à 11. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, hein, il reprend ça en fait Pierre dans les Actes, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, et ça c'est prophétique tout simplement de ce que Jésus allait vivre, hein. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta face, des délices éternels à ta droite. Bien avant encore, cela avait été prophétisé, que Jésus ne pourrait pas rester mort, mais qu'il allait ressusciter. Et donc on voit dans ce psaume, qui est repris dans les Actes, hein, l'assurance de la présence de Dieu, hein, dans le combat qu'il va mener là. Il dit « Je voyais le Seigneur devant moi ». D'une certaine manière, le Seigneur savait qu'il était accompagné dans le calvaire qu'il allait vivre, même si à un moment le Père va l'abandonner sur la croix, mais il était quand même accompagné. Et ça nous rappelle que nous-mêmes, dans nos mini calvaire, on va dire, ben Dieu aussi nous accompagne et peut nous aider. Et dit parce qu'il est à ma droite, c'est-à-dire parce que Dieu est à ma droite, et l'expression la droite, en fait, dans l'Ancien Testament, ça veut dire parce que ça symbolise tout simplement la protection de Dieu. Quand je dis que Dieu est à ma droite, ça veut dire qu'il est là pour me protéger et m'aider, et que rien ne peut tout simplement m'ébranler. Dans ce psaume, toujours, on voit l'assurance de la délivrance, hein, puisqu'il dit son cœur était dans la joie et la langue allègre. Quand même se dire, attends, il va aller mourir et il est dans la joie et la langue allègre, un peu bizarre. Alors, on n'est pas maso, hein, il n'était pas maso, mais certainement qu'il avait pleinement confiance en celui qui l'amenait à l'abattoir d'une certaine manière, mais il avait confiance en son père. Et il est allé jusqu'au bout dans l'épreuve. Et pour moi, c'est à méditer, parce que nous, quand on a une épreuve, généralement, on n'a pas la langue allègre et le cœur dans la joie. On est plutôt en train de se plaindre, en train de crier, de hurler, au secours, mais Jésus nous montre qu'on peut avoir confiance en Dieu, quoi qu'il nous arrive dans notre vie. C'est pas toujours simple, hein, et ça n'a pas été simple pour Jésus non plus. Continue toujours en disant « Sa chair reposera dans l'espérance ». D'une certaine manière, le psalmiste, mais aussi Pierre, rappelle que Jésus savait que son corps ne resterait pas dans le tombeau et qu'il ressusciterait le troisième jour. Puis l'assurance de la résurrection, hein, toujours dans ce psaume, « Il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts ». Jésus savait qu'il serait ressuscité. Jésus ne verrait pas la corruption, c'est-à-dire la destruction du corps, hein, tout simplement. David, lui, parce qu'il fait un parallèle, va connaître cette mort, puisque David est mort, comme tout le monde. Il ressuscitera un jour, mais pour l'instant, il est mort. Il est dans son tombeau. Il connaîtra les sentiers de la vie, la joie de ressusciter, et surtout de ressusciter pour l'éternité. Il connaîtra la joie de la présence de Dieu, puisqu'on va le voir tout à l'heure. Et bien, une fois ressuscité, Jésus va monter au ciel, à l'ascension, et puis il va être glorifié par son Père, pour l'éternité. On en parlera tout à l'heure. Donc, Pierre savait et rappelle justement toutes les prophéties de l'Ancien Testament pour démontrer que la résurrection était annoncée, hein, et qu'elle prouve justement la messianité de Christ aussi. Et puis, il va continuer en parlant de David encore, les versets 29 à 31. Hein, il va rappeler que David, lui, est mort, en comparaison avec Jésus qui, lui, est ressuscité. Hein. Donc, quand On a l'impression des fois qu'il mélange les deux textes, on a l'impression qu'il parle seulement de David, mais David comme il est mort, donc Pierre parlait de quelqu'un d'autre à ce moment-là. Vous me suivez? Un peu compliqué, hein? On arrive à suivre. Bon. Donc il ne parlait pas de David dans la défense qu'il est en train de faire là, mais il est en train de parler de quelqu'un d'autre, donc de Jésus, forcément. Et il fait justement la comparaison, le sépulcre de David est plein, le sépulcre de Jésus, il est vide. David, on ne parle pas de David, du roi David là, mais on parle de Jésus. Il rappelle aussi que David était prophète, et si vous connaissez l'Ancien Testament, David devait recevoir une descendance après lui, hein, puisqu'il n'y a plus de roi après, et cette descendance, tout simplement, elle devait se traduire au travers du Messie. Et ce Messie qui allait venir sera le nouveau roi. Évidemment, c'est Jésus qui est ce Messie, qui est ressuscité et qui a démontré sa messianité et qui va devenir la descendance de David, qui va devenir un roi parfait, divin, éternel, le meilleur des rois que la terre aura jamais connu, puisque lui, il est sans péché, il est juste, il est parfait. Ça veut dire aussi qu'il sera juste avec moi. Faut pas, des fois, on veut bien un roi juste, mais est-ce que nous, on est juste aussi? Parce que ce n'est pas facile de se présenter devant un tel roi. Et ce Messie, pour l'instant, il est glorifié au ciel, mais la Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'il va venir créer, enfin déjà faire la guerre à tous ceux qui sont contre lui, détruire tous ces gens-là, et puis instaurer un millénium, c'est-à-dire 1000 ans de règne, où justement il va régner en roi parfait, divin, et certainement en co-gérance avec le roi David. En tout cas, il y a des gens qui vont ressusciter parmi les Juifs, et David est cité parmi eux en tout cas. Et puis il y a le témoignage des apôtres au verset 32, hein, il dit « Nous sommes tous témoins », Pierre dit, et tous les gens qui étaient avec lui, « Nous sommes témoins que Jésus est ressuscité ». Éventuellement, dans la défense qu'il est en train de faire de la résurrection de Jésus, comme il prend l'Ancien Testament, que c'était prévu, mais eux l'ont vu. Hein, c'est pas juste de dire « Oui, il y aura quelque chose qui va arriver », mais ça s'est déjà accompli. Et il y avait plus de 500 témoins qui prouvent, attestent de la résurrection de Jésus. Qui suis-je, moi, pour leur dire, pour eux? 500 personnes. Hein, on nous demande 2-3 témoins quand il y a un accident. Et on est d'accord avec ça. Mais alors 500 personnes qui vous disent « Oui, j'ai vu Jésus ressuscité », à un moment, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont tous fous, ou je ne sais pas, il y a quelque chose. C'est qu'il est vraiment ressuscité, tout simplement. On peut tirer une petite leçon pour nous de tout cela. Hein. C'est surtout que la parole, et c'est ça qui la différencie de tout ce qui existe comme religion, etc., c'est qu'elle est prophétique. Elle dit des choses, et les choses se sont réalisées. Elle dit des choses pour l'avenir qui ne se sont pas encore réalisées, mais qui vont se réaliser. On parlait du temple tout à l'heure, c'est vrai ce que disait tout à l'heure notre frère, ils ont tout qui est prêt, mais ce temple va être reconstruit bientôt, pendant la période de tribulation, comme nous dit Apocalypse Daniel, il faudrait étudier plusieurs passages pour cela. Mais la preuve que la Bible dit vrai, c'est que c'est déjà à notre porte. Le jour où le temple sera construit, là, ça veut dire que Jésus va revenir. Ça ne va pas tarder, à mon avis. Et on n'y est pas loin. Mais Jésus dit vrai, et c'est parce qu'il est vivant, c'est parce qu'il est Dieu lui-même, qu'il peut savoir ces choses-là, qu'il peut voir, prophétiser des choses, mais aussi prophétiser des choses pour l'avenir, tout simplement. Et il vaut mieux croire en Jésus-Christ, parce qu'il dit vrai, c'est ça le problème. Les autres n'ont jamais prophétisé comme cela. Il y a eu des prophètes, hein, il y a eu des gens qui ont dit des choses, mais ça ne s'est jamais réalisé à la lettre. Et cette résurrection de Jésus, aussi pour moi, ok, Jésus est ressuscité, mais ça démontre aussi que moi, un jour, je vais ressusciter à notre mort. Alors, il y a deux résurrections, il y a celle des justes, ceux qui vont aller vers le Seigneur, mais aussi la résurrection des injustes, ceux qui sont jugés, mais qui vont en enfer. Et il faut réfléchir à ça. Je ne sais pas où vous en êtes tous, mais il faut réfléchir à ça parce que Jésus peut revenir aujourd'hui, ou demain, comme l'a dit tout à l'heure Rémi. Et il faut que je sache où j'en suis. Parce que là, je pourrais faire tout ce que je veux, hein. Toutes les excuses que j'ai dans ce monde contre Dieu, tout ça, je ne pourrais pas le dire devant Dieu. Il y aura un jugement et c'est réglé. Voilà. Il faut être prêt. Et justement, cette résurrection de Jésus doit aussi nous préparer à cette future résurrection, juste ou injuste. Mais je préfère que vous soyez parmi les justes, évidemment. Donc par la résurrection de Jésus, hein, Dieu a prouvé, d'abord, Dieu a approuvé le sacrifice de Jésus, parce qu'il aurait pu dire, non, je ne suis pas d'accord, il l'a approuvé, mais il a aussi démontré que Jésus était effectivement le Messie, et le seul qui pouvait offrir sa vie pour le péché de ce monde. Voilà déjà deux arguments pour les Juifs, là, ils devaient être convaincus. Il continue, troisième argument. Il va parler de l'exaltation et de la glorification de Jésus, à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. Et il va dire qu'il va être élevé à la droite de Dieu. Personne n'a jamais été élevé à la droite de Dieu, sinon Jésus-Christ. Et il va recevoir le Saint-Esprit qui a été promis. Pour ceux qui connaissent l'Évangile, Jésus a dit qu'il devra partir, mais qu'il va envoyer le Consolateur, Le paraclet en grec, c'est celui qui est le Saint-Esprit aujourd'hui et qui est tout simplement notre avocat aussi, hein, puisque le mot veut dire la même chose. Et cette chose-là, ben, le jour de la Pentecôte, c'est encore réalisé. Jésus a dit quelque chose, ça s'est réalisé. Jésus était Dieu, puisqu'on ne peut pas faire autrement pour savoir l'avenir. Hein. Et en envoyant le Saint-Esprit, ben, Dieu démontre aussi que Jésus-Christ a été exalté, a été glorifié. L'Éternel a agréé ce qu'il a fait. Et il dit, il le répand comme vous le voyez, hein, dit le texte, comme vous voyez maintenant, parce qu'il s'est passé des choses un peu curieuses à ce moment-là à la Pentecôte, mais vous voyez que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et parce qu'il a envoyé ce Saint-Esprit, ça prouve que Jésus est ressuscité, et ça prouve que Jésus est glorifié aujourd'hui et dans le ciel. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme preuve à un moment, hein? Je ne sais pas. Non? Vous voulez plus? On va trouver plus. Mais voilà. Et puis, il répand donc ce Saint-Esprit qui est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on cherche plusieurs baptêmes à droite et à gauche. Il n'y en a eu qu'un, un seul pour toujours, comme Jésus est mort une seule fois pour toujours et chacun accepte par la foi d'être sauvé. J'ai été baptisé du Saint-Esprit et j'intègre le corps de l'Église, hein, dont Christ est le chef aujourd'hui. Et il dit, il est désormais Seigneur et Christ. Dans le psaume 110, il est dit de David, psaume, parole de l'Éternel, mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Là, encore une fois, Pierre reprend un psaume qui est prophétique, quelque part, et qui montre bien que, d'abord, David, lui, n'est pas monté au ciel, donc on ne parle pas du roi David, là, dans ce texte-là, mais il n'y a que Jésus-Christ qui est monté à la droite de Dieu. Seul le Messie pouvait faire cela. Et il dit un truc un peu compliqué, peut-être, hein, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur... » À un moment, on ne sait plus qui est le Seigneur de quoi, hein, alors je vais dire, alors le Seigneur, c'est-à-dire Dieu, a dit à mon Seigneur, c'est-à-dire, là il s'adresse à David, mais au Seigneur de David, qui est tout simplement Jésus-Christ. Je reprends, à reconnaître par cœur. Le Seigneur, c'est-à-dire Dieu, a dit à mon Seigneur, c'est-à-dire à celui de David. Donc il parle de Jésus-Christ, tout simplement. Vous avez retenu? Non, c'est pas grave. En tout cas, Dieu approuve son serviteur, tout simplement, et prouve qu'il est assis à sa droite, jusqu'à ce qu'un jour, quand Jésus va revenir, eh ben Dieu fasse de tous ses ennemis un marchepied. Hein, vous avez un petit escabeau là-dessus. On va simplement fléchir le genou devant Dieu, devant Jésus. On ne pourra rien dire. Il faudra se taire parce qu'il est le roi de la terre à ce moment-là. Nous, en tant que chrétiens, ça ne nous gêne pas parce que nous, on a déjà fléchi le genou. On a accepté Christ dans notre vie. Et moi, ça ne me gêne pas de m'agenouiller devant Christ, avec joie même, parce qu'il le mérite. Mais si je le refuse dans ma vie, ah non, moi, je n'ai pas envie de m'humilier devant Dieu. Ah non, je ne veux pas accepter que je suis pécheur. Ah non, moi, je suis un religieux. Moi, j'ai toujours fait le bien. Non, non, non. Et Christ va dire, mais c'est pas ça que j'ai demandé. C'est pas ça que j'ai demandé. Et là, je vais devoir fléchir le genou devant lui. Et par la force, c'est moins agréable que par le cœur, par la foi, tout simplement. Et donc, que toute la maison d'Israël sache, hein, dit Pierre, ou tous là, les Juifs qui étaient là à ce moment-là, écoutez ce qu'on vous dit. Ce Jésus que vous avez crucifié, hein, je l'ai dit au début, que vous avez crucifié, ben maintenant, il est dans la gloire. Le Messie que vous avez entendu, que vous avez rejeté, que vous avez tué, il est aujourd'hui dans la gloire. Ça devait certainement faire bizarre pour un juif à ce moment-là. Purée, on a fait une sacrée bourde. Hein. Je ne sais pas s'ils le reconnaissaient, pas la plupart en tout cas, et pour ceux qui avaient accepté, parce que certains vont se convertir, ils ont dû comprendre leur bourde. Mais il est dit aussi dans la Bible que quand Jésus va revenir à Jérusalem, quand il va poser ses pieds à Jérusalem, hein, bientôt certainement, une partie des Juifs qui attend encore le Messie, qui est dans le judaïsme, va reconnaître Jésus parce qu'il va revenir avec les marques des clous dans les mains et dans les pieds. Et ils vont reconnaître à ce moment-là qu'ils s'étaient trompés. Et ça doit faire bizarre au bout de 2000 ou 3000 ans, je ne sais pas quand Jésus va revenir, de se dire oh, « on s'est planté ». Ça va faire quelque chose au cœur, je pense, pour ces gens-là. Pour ça, peut-être que beaucoup vont se convertir à ce moment-là, mais c'est quand même cher payé toutes ces années. C'est bien dommage de ne pas le reconnaître tout de suite. Mais en tout cas, ça devait être une grosse honte sur eux. Je ne pense pas que Pierre cherchait la honte ou l'humiliation, ou plutôt cette humiliation de comprendre qu'on s'est trompé. Parce que nous-mêmes, dans notre vie, hein, je n'étais pas chrétien dès que je suis né. Hein, je me suis aussi trompé. J'avais ma philosophie, j'avais ma religion, j'avais mes choses, mes pensées. Et puis à un moment, j'ai reconnu que je me suis trompé. Et j'ai reconnu que Jésus est le Messie et le seul qui peut me sauver, tout simplement. Cette glorification de Christ, ben, ça donne une leçon pour moi aussi. Dans Éphésiens 2, 6, il est dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Celui qui est chrétien a l'assurance aujourd'hui d'avoir déjà un pied dans le ciel. C'est un grand écart, hein, si on y réfléchit un petit peu, mais j'ai déjà l'assurance que je suis dans le ciel. Ça provoque quoi en nous ? Ouais, je bosse demain, franchement, j'ai envie de penser à autre chose. Ça vous réjouit ou... Enfin, si vous êtes sauvé, évidemment. Hein. Ben, j'espère que ça vous réjouit, hein. Un peu plus que ce que je vois là, parce que vous êtes endormi ou... Ça doit nous encourager. Oui, ben, y a la mort peut-être, il y a la maladie avant, il y a un tas de choses pénibles, mais au bout, c'est quand même mieux que l'enfer. Ben, à réfléchir, hein, tout de même. Mais je dois vivre aussi comme si j'avais déjà ce pied dans le ciel. Parce que souvent, on vit sur la terre avec la tête un peu baissée. On dit, je suis chrétien, c'est dur, la vie, gna 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 gna. Alors que de temps en temps, il faudrait lever la tête et se dire, oh, ce qui m'attend, je vais ressusciter, ça veut dire que je vais avoir un corps parfait, sans maladie, je serai sans péché, et je serai à côté de Jésus, auquel je crois aujourd'hui, que je crois par la foi, mais là, je le verrai. Bonjour Jésus, comment tu vas? J'avais une question dans la Bible, un peu, peut-être. Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer là-haut, mais ça, c'est une réalité. Et c'est la foi qui prouve cette réalité. Comprenons aussi la position de Jésus, parce qu'on est prêt à dire que Jésus va écraser tous ses ennemis, et ça, on voit. Mais souvent, on oublie qu'il est aussi notre Seigneur. Et si c'est mon Seigneur, c'est un ami, certes, mais c'est un ami que je dois respecter. C'est pas mon pote. Même s'il nous dit qu'il est ami, et Jésus doit être respecté dans tous les domaines de notre vie. Déjà, lui obéir, on n'est pas parfait, mais essayer de lui obéir, mais se souvenir que... Quand il va venir, je ne vais pas aller courir vers lui en disant « Salut, c'est moi, je m'appelle Emmanuel. » Je crois qu'on va plutôt pas faire les fiers. Surtout à cause de notre péché encore. Mais on ne va pas faire les fiers. Mais aujourd'hui, comme on ne le voit pas, bon, Jésus, il est hein, souvent le supermarché, on vient, on lui demande des choses, puis on repart. Et quand on va le voir, et c'est ça qu'il faut avoir peut-être en tête. Oui, Jésus est mon Seigneur, mais souvenons-nous de qui il est. Et là, ça change la vie, parce que si je commence vraiment à respecter Jésus-Christ dans ma vie, ma façon de vivre, les choses que je vois, que je regarde, que j'écoute, bah, tout doucement, elles vont changer. Faisons de Jésus-Christ vraiment notre Seigneur dans notre vie chrétienne. Donc Pierre démontre que par l'humiliation de Jésus, qui finalement l'a conduit à l'exaltation, hein, ces Juifs qui l'ont crucifié, on dit voilà, on est débarrassé de lui, il ne va plus nous embêter, et bien trois jours après, il va ressusciter, et il va les embêter encore plus. Hein. Et aujourd'hui, il les embête encore d'autant plus puisqu'il est glorifié. Mais Jésus a accepté l'humiliation pour être glorifié. Peut-être une leçon aussi pour nous. Des fois, notre orgueil réagit hein, quand on nous fait du mal. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le marteau et boum. Voilà. T'as vu? Je suis plus fort que toi. Ça mène pas à l'exaltation, généralement. Ça mène que l'autre prend son marteau et tape sur vous aussi. Et finalement, c'est la guerre. Alors que Jésus a accepté d'être humilié. Parce que la Bible nous dit, hein, à un moment, il aurait pu dire « Je veux un milliard d'anges pour me délivrer. » Et il aurait fait ça. Un milliard d'anges, il aurait rasé Jérusalem. Il n'y aurait plus d'ennemis. C'était réglé. Il serait allé en vacances. Et puis c'était comme ça. Mais Jésus a accepté d'être humilié, parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de grand qui l'attendait, mais surtout qui nous attendait. C'est le salut, c'est la possibilité d'être sauvé. Merci Seigneur de l'avoir fait. Et aujourd'hui, le Messie règne, siège en gloire dans le ciel, tout simplement, à la droite de Dieu, en attendant de revenir. Et Pierre, quatrième démonstration et dernière, hein, va parler des effets de cette résurrection. Parce que quand on réfléchit à la résurrection, ben ça pousse à une question automatiquement. Soit je passe le sujet très vite et je dis la résurrection, n'importe quoi. Mais bon, quand même, 500 témoins, la Bible a prophétisé, ça s'est réalisé. À un moment, il faut quand même se poser la question. Le message de la résurrection devrait avoir un impact, en fait, sur notre vie. Beaucoup d'églises, aujourd'hui, vont fêter la Pentecôte, je pense plutôt des religions, mais aucun impact dans leur vie. Ouais, voilà, Jésus est ressuscité, et puis c'est fait. Hein, voilà, on a fait, et on repart au travail demain. Mais là, à ce moment-là, ça a touché des cœurs. Plusieurs cœurs ont été touchés par cette résurrection. Ça a percé même les cœurs, j'ai l'impression, de ces gens qui étaient là pour la plupart, parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. Et comment ne pas être ému devant la croix? Comment ne pas être ému devant quelqu'un qui ne méritait pas de mourir, qui était parfait, et qui accepte de mourir pour des gens qui sont pécheurs? Comment on ne peut pas être ému? Comment on peut balayer ça d'un seul coup dans notre vie? C'est pas possible. Hein. Pourtant, beaucoup le font. Et cette croix, justement, si on est ému, si on a compris, ben, va pose une question, et c'est ce que fait la foule. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ok, on a compris ce que tu as argumenté, on a compris que c'est vrai, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés, mais qu'est-ce que je dois faire? Formidable, hein. L'impact de la résurrection, de cette question-là. Hein. Et Pierre va répondre, ah, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir tous les dimanches, ou chaque fois que je vois quelqu'un, il me dit, qu'est-ce que je dois faire, hein? Parce que j'ai compris que je suis perdu. Bah, généralement, les gens vous regardent et disent, ouais, allez, bas. T'es un peu illuminé. Mais eux vont poser la question, que ferons-nous ? Quand quelqu'un se repent, vraiment, parce qu'il a compris toutes ces choses-là, ben, ça change son état d'esprit, ça change sa façon de penser. Il faut, et c'est ça la repentance, avouer sincèrement ses fautes. Ils ont reconnu leurs fautes, en particulier celui d'avoir crucifié le Messie, mais certainement aussi avoir reconnu leur péché à eux. Et il faut le faire sincèrement. Ah, pardon, Seigneur, hop ! Quand on demande pardon vraiment au Seigneur, ça coûte, parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a peut-être insulté Dieu des fois, on a rejeté Dieu. Et là, je reconnais que je me suis trompé, ben, ça donne envie de pleurer des fois. Quand on se repent, généralement, c'est lourd dans le cœur. Mais il faut passer par là, parce que sinon, on n'est pas sauvé. On ne peut pas être sauvé, puisque si je ne me repens pas, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Je n'ai pas besoin de ça. Et Pierre dit, repentez-vous et vous obtiendrez le pardon des péchés. Et ce pardon des péchés, nous dit la Bible, c'est uniquement par le sang de Jésus-Christ. Ephésiens nous dit, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas parce que vous allez à l'église, ce n'est pas parce que vous faites le bien, ce n'est pas parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes beau, parce que je ne sais pas ce que le monde peut bien inventer dans ce monde, c'est seulement par grâce. Il faut que j'accepte le cadeau de Dieu dans ma vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, mort à ma place et ressuscité. Et puis il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, hein, et ça démontre justement non seulement que Christ a été glorifié, mais que je suis aussi né de nouveau. Souvent, on ne parle pas de la nouvelle naissance dans la religion, mais hein, quelqu'un qui est chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui est passé par la repentance, qui a demandé pardon pour ses péchés et qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur. Et à ce moment-là, il naît de nouveau. Et une nouvelle vie commence. Et puis ça l'intègre aussi dans l'Église. Et pour nous qui sommes chrétiens, oui, ça a changé les choses, non ? Mais comment ? Surtout pour moi. Vous. Non, ça a changé la vie pour tout le monde, normalement. Ça démontre qu'on est né de nouveau aussi. Hein. Et puis, je remets le texte dans l'ordre, hein, parce que lui, il a un peu mélangé toutes les idées. On a l'impression qu'il faut être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit. Je remets exprès dans l'ordre, parce qu'il y a d'autres textes qui mettent les choses dans l'ordre. Hein. Et puis, une fois que je suis né de nouveau, une fois que j'ai eu le Saint-Esprit, une fois que je suis sauvé, eh ben, le Seigneur nous demande tout simplement de nous faire baptiser. Pas parce que le baptême sauve, le baptême ne fait rien du tout, il ne purifie pas des péchés, il ne fait rien du tout. C'est simplement l'expression visible devant vous, hein, de quelque chose qui s'est passé dans mon cœur, invisible, au moment où je me suis converti. Je dis tout simplement à ceux qui sont là, voilà, j'ai rencontré Christ dans ma vie, je suis né de nouveau, et je veux passer par les eaux du baptême, m'identifier dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous ordonne de nous faire baptiser. Hein. Donc faisons-le si nous en sommes prêts, mais surtout si nous sommes nés de nouveau. Sinon je ne baptise pas, sinon vous faites n'importe quoi. Et puis il laisse une promesse de salut aussi pour tous, Pierre. Hein, il dit le salut est encore accessible aujourd'hui. La question c'est, est-ce qu'on le désire ? Je l'ai dit, ça change la vie, honnêtement. J'ai rejeté Christ plusieurs fois dans ma vie, et j'étais dans une église évangélique avec mes parents, et j'ai dit, votre Dieu, vous le gardez. Le jour où on fléchit le genou, et là j'étais bien loin dans ma vie aussi, et ben, ça a changé toute la vie, ça transforme la vie. Si vous n'avez pas de but dans votre vie, vous en trouvez un sens à la vie. Et ça, c'est formidable. Et puis surtout, vous verrez un Dieu qui est vivant et qui agit, qui vous suit tous les jours, qui vous aide, qui vous corrige aussi, quand vous faites des bêtises. Mais c'est un papa, tout simplement, qui nous aide. Et Pierre encourage à accepter ces gens-là. À ce moment-là, c'est juif, hein, mais moi, je vous le fais aujourd'hui. Ce n'est pas le Pierre de l'époque, mais c'est moi. Mais surtout, d'accepter la grâce, parce que beaucoup de gens se font piéger. « Oh, Dieu n'existe pas, on n'a pas besoin de Dieu. » Et puis, une fois que tu es en enfer... Ah mince, on en avait parlé. Le problème, c'est que ben, demain, je ne pourrais pas en sortir ni pendant tout le reste de l'éternité. Et là, je crois que l'enfer, pour moi, c'est de regretter d'avoir su et de ne pas pouvoir changer d'avis. Et ça, c'est juste la petite partie pensée, parce que la Bible nous dit qu'il y a de la souffrance dans cet enfer. Mais Dieu est juste. Il a tout fait pour que vous soyez sauvés. Il a tout donné, même son Fils. Alors, à un moment, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que vous l'acceptiez ? Si vous ne voulez pas, c'est votre choix et Dieu le respecte, mais après vous payez les conséquences, ça c'est clair. Si vous voulez traverser une autoroute pleine de voitures et qu'on vous prévient mais que vous y allez quand même, vous faites écraser, hein. C'est pas moi qui serai responsable, c'est vous. Et dit, sauvez-vous de cette génération perverse, parce que ce monde aujourd'hui devient de pire en pire, parce qu'on prêche un salut par les œuvres, parce qu'il y a de plus en plus d'églises complètement bizarroïdes qui commencent à naître. Non, le seul moyen d'être sauvé, c'est la grâce de Dieu, et c'est la Bible qui le dit, et il faut simplement accepter ce cadeau gratuit qu'il nous fait. La résurrection de Christ, nous dit Pierre, a offert une grande espérance à ceux, évidemment, qui l'ont accepté dans leur vie, et nous, chrétiens, nous sommes heureux de savoir que la fin de la vie, c'est pas la fin, c'est juste le commencement, et pendant une éternité, vous allez me supporter. Je suis désolé, mais je vais essayer de me reculer le moins possible, mais on va partager l'éternité ensemble, c'est formidable. Il faut s'y préparer aujourd'hui, hein. Parce que pour moi, l'éternité, elle a commencé aujourd'hui. Hein. Elle ne commence pas quand je suis mort, ça commence aujourd'hui. Alors commençons à nous entendre, là-haut, on y arrivera peut-être un peu mieux, mais bon, c'est formidable l'espérance que nous avons. Pour terminer, Jésus est bien le Messie. Je crois qu'on ne peut rien dire contre toute la démonstration que Pierre a fait là. C'est bien le Messie qui avait été attendu dans l'Ancien Testament, qui a été envoyé par Dieu. Il l'a prouvé par sa vie, il l'a prouvé par sa mort, il l'a prouvé par sa résurrection, il l'a prouvé par sa glorification. Qu'est-ce que vous voulez de plus, hein ? On ne peut pas faire plus. Mais le Seigneur nous demande justement de nous humilier devant ce Messie, devant ce Sauveur, devant le Roi des Rois, justement de l'accepter dans notre vie, parce qu'un jour il va venir, il a dit, et tous les genoux vont fléchir devant lui. Et ça sera trop tard pour accepter sa grâce. C'est aujourd'hui que le Seigneur appelle au salut. Et prenez le temps d'y réfléchir en cette période de Pentecôte, où j'en suis avec le Seigneur. Est-ce que je l'ai vraiment accepté dans ma vie ? Et si je l'ai accepté dans ma vie, est-ce qu'il est vraiment le Seigneur de ma vie, ou c'est le copain qui m'accompagne un peu tous les jours ? Ça change quand il devient vraiment le Seigneur de ma vie. La Pentecôte rappelle aussi l'offre du salut qui est encore aujourd'hui valable. Je ne sais pas si vous l'avez accepté, mais faites-le, c'est tellement bien. On va prier. Seigneur, merci pour l'apôtre Pierre et pour ce discours qui est riche en argumentation, Seigneur, et qui a aussi produit son effet à la Pentecôte. Merci parce qu'il nous montre que ta vie a démontré que tu es effectivement le Fils de Dieu, que tu es Dieu toi-même, que tu es ressuscité, que tu es glorifié, finalement que tu as fait tout ce qui a été prévu dans l'Ancien Testament. Et nous nous réjouissons, nous, parce que nous le croyons pleinement, que tu es aujourd'hui dans le ciel, et malgré ce que le monde vit, tu restes souverain, tu restes aux manettes de ce monde, Seigneur, et nous savons qu'un jour tu reviendras. C'est notre plus grande joie. Et nous voulons prier en particulier pour ce monde qui ne te connaît pas, et peut-être en entendant ce discours de Pierre, comme à l'époque, qu'il pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant que j'ai compris ? Pousse-les à se poser cette question, que ce soit dans la ville d'Étréchy, dans nos familles, nos collègues de travail, toutes les personnes que nous connaissons, que nous partageons justement notre foi, et qu'ils puissent poser cette question, que ferons-nous ? Merci pour nous en tout cas, et pour toute l'espérance que tu nous donnes. Cette gloire que tu as aujourd'hui, tu voudras la partager avec nous, Seigneur, et c'est toute notre joie, et fais que de temps en temps nous nous en rappelions. Fasse aussi que nous devenions des enfants obéissants et que ce mot Seigneur ait une pleine signification dans notre vie. Tu ne veux pas des gens parfaits, Seigneur, mais tu veux au moins des gens qui respectent tout simplement ta volonté. Aide-nous, parce que ce n'est pas toujours simple, Seigneur, mais je sais que tu vas nous aider pour le faire. Que ton nom soit glorifié ce matin, en Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.